Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme, heureux de vous parler en ce 18 septembre, alors que les camps d'entraînement de la Ligue nationale de hockey, ça s'amorce là, aujourd'hui pour certaines équipes, donc ça commence à sentir le hockey, les matchs préparatoires ce week-end aussi. Donc aujourd'hui à l'émission, on va parler beaucoup des Canadiens de Montréal, on va parler un peu de ce qui s'est passé ce week-end dernier avec le tournoi des recrues, tournoi de golf lundi aussi, donc ce qui lance le début de la saison, donc... c'est ce qui va être à l'émission aujourd'hui. On va parler, cette reconstruction-là des Canadiens. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a de la place pour de l'optimisme? Est-ce qu'on peut parler de séries éliminatoires? Je vais discuter de tout cela avec mes invités aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je vous invite, si vous nous écoutez sur le site de LNH.com, je vous invite à nous suivre si vous êtes en déplacement ou peu importe, à nous écouter sur toutes les plateformes de diffusion. Là, on est partout. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Suivez-nous, comme ça, vous êtes certain de ne rater aucun balado. D'ailleurs, si vous avez raté nos deux derniers, c'est pas le premier aujourd'hui de la saison. On en a déjà deux derrière la cravate parce qu'on a fait spécial Poolers lors de la dernière semaine. Donc, si vous allez sur les plateformes de diffusion, vous allez trouver dans nos archives les deux épisodes. Un qui était sur les dossiers à surveiller et l'autre surtout sur les recrues et nos recommandations. Donc, si votre pool de hockey n'a pas encore commencé, ça s'en vient. Si vous avez besoin de quelques conseils, on est là pour vous. Alors, on y va, on se lance dans cette émission avec mes deux invités. Le premier, Guillaume Lepage. Salut, Guillaume.
Salut, Nick.
Et Jean-François Chaumont, c'est JF.
Bonjour, messieurs.
Merci d'être avec moi aujourd'hui, messieurs. Alors que cette nouvelle saison des Canadiens qui s'amorce, une autre sur le beat pour vous deux dans la couverture de l'équipe. Les gars, ça a commencé pour les Canadiens, j'ose pas dire un boom, mais quand même, parce que le tournoi des recrues, on se disait, il y a un joueur qu'on a hâte de voir à l'œuvre, il est à la ligne bleue, c'est Lane Hutson. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il en a donné pour son argent aux gens qui se sont présentés au centre. C'est quand même impressionnant parce que je regardais les tournois des recrues à travers la ligue. Là. C'est fait dans des arénas d'entraînement, des petites places un peu partout à Traverse City dans le Michigan. Et à Montréal, on remplit le centre Bell. Hein? La folie hockey, il n'y a rien qui bosse à Montréal. Mais Lane Hutson, justement, en a donné pour leur argent à tous ceux qui se sont présentés au centre Bell samedi et dimanche.
Il y a Pascal Vincent qui le résumait bien après le premier match de samedi contre les Maple Leafs en disant « c'est magique ». Il y a peut-être juste à Montréal où on peut vendre 20 000 billets pour un match des recrues entre le CH et les Maple Leafs. Oui, c'est typique de Montréal. Je me souviens, les autres années, on a déjà couvert des tournois des recrues à Buffalo où c'est le centre d'entraînement des Sabres. Gros maximum, ils rentrent peut-être à 1500 personnes, si on est généreux.
Ouais.
1500, 2000. Il y a déjà eu des matchs à London. Il y a déjà eu des matchs dans la superbe ville de Belleville, en Ontario. Donc, c'était un contraste cette année.
C'était un excellent séjour à Belleville. Ça va rester gravé dans ma mémoire.
Ouais, pour
puis
plusieurs.
On partageait un mur de chambre d'hôtel, moi et Jean-François.
On pouvait pratiquement se parler sans sortir de la chambre.
Vous vous entendez pousser, là.
Des codes, exact. mais Nick, tu parlais de Lane Hutson. C'est le nom qui revenait le plus souvent en fin de semaine. Puis autant quand on fait le bilan du très court tournoi des recrues, Francis Bouillon avait un immense sourire dans le visage en parlant de Lane Hutson. Même chose pour Pascal Vincent. C'est le Lane Hutson qu'on voyait à Boston University. Le même Lane Hutson qu'on a vu avec l'équipe américaine. Le même Lane Hutson qu'on a vu pour deux petits matchs en fin de saison avec les Canadiens. C'est un défenseur qui est spectaculaire, qui est bon en possession de rondelles, qui a un flair offensif. Je pense que ça ne sert à rien de s'attarder pendant 3 heures. Hutson est hyper talentueux. Il reste le même jeune défenseur. On verra comment il pourra réagir aussi à une plus longue saison. Ça reste un petit défenseur. Sur la liste, là, on dit 5 pieds, 10 pouces. Après moi, là, il y avait quelques orteils là, détirés. C'est plus un 5 et 9. 170 livres et des poussières. 162 livres. Pour Lane Hutson, mais c'est du talent qui lui sort par les oreilles. Puis c'était le fun aussi de voir l'énergie. Il y avait beaucoup de jeunes partisans en fin de semaine, beaucoup d'enfants dans les gradins, mais dès que Lane Hutson touchait à la rondelle, Il y avait un murmure dans le Centre Bell. Les gens étaient heureux de le voir.
C'est les parents qui se levaient, là, par exemple.
Ouais, puis qui donnaient un coup de coude aux petits de 7 ans pour lui dire, arrête de regarder la grosse télévision et regarde sur la glace.
Là, mais honnêtement, j'ai pensé...
J'allais dire, lâche Youpi deux secondes, regarde ce qui se passe. Là.
Ben, j'ai passé la remarque à notre collègue Sean Farrell de NHL.com dimanche, puis quand c'est des matchs avec des enfants, les billets sont accessibles. Je pense que c'est 10$ le billet en fin de semaine. L'énergie est différente dans le Centre Bell. Tu sens que les gens sont là pour regarder le match puis sont impliqués dans le match. C'était divertissant, mais on s'entend, c'était pas un match...
Tu te croirais presque au Rocket, ironiquement.
Ouais, ben honnêtement, oui.
L'ambiance au Rocket de Laval, c'est différent parce que c'était... T'sais, pour ceux qui connaissent les ambiances juniors à travers Guillaume, t'as fait les arénas un peu partout au Québec, tu le sais autant que moi. Et c'est les gens qui sont là pour voir l'action, pour voir les joueurs. Tu te rends pas à cette place-là à Laval parce que tu t'es fait donner des billets. Tu y vas parce que ça vaut la peine, là, parce que c'est pas la chose la plus facile à se rendre en automobile là, à la place Belle. C'est un peu ça. Pareil pour les matchs du Super Bowl, souvent, il y a un peu plus de jeunes dans la foule. Là.
Non, pour vrai, c'était vraiment une belle réussite, même si, je vais l'avouer, je me suis ennuyé des 3-4 jours à Buffalo qu'on passe habituellement là, au tournoi des recrues là-bas. La belle ville de Buffalo, là, c'est un incontournable habituellement, mais là, je pense que le Canadien a trouvé une certaine formule là, qui permet en même temps là, de lever des fonds pour la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Donc, c'est pas des matchs qui servent à renflouer les coffres de l'équipe. Là. On donne ça à la fondation. Fait que c'est une belle formule. Une belle
tu formule vois, quand Guillaume m'a dit d'ennuyer, mon cœur arrêtait de battre pour une ou deux secondes. Je me disais, il s'est ennuyé de moi parce qu'on a partagé les matchs en fin de semaine. On n'était pas assis un côté de l'autre. Non, il s'ennuyait de Buffalo.
Ben oui,
je croyais qu'il y avait un seul humain sur Terre qui pouvait avoir une obsession pour Buffalo. Il s'appelle Guillaume Lefrançois.
Non, j'irais pas.
Il y a maintenant Guillaume Lepage également.
Non, je dirais pas obsession quand même.
C'est ça, c'est une déformation de gens qui s'appellent Guillaume et qui passent un peu trop de temps sur le beat du CH. mais est-ce qu'il faut pas un peu se calmer un peu? C'est toujours bien juste deux matchs des recrues. C'est deux matchs de tournoi des recrues dans le cas de Hudson. Tu sais, le vrai test, il s'en vient là avec le début du camp d'entraînement.
Ouais, mais ça fait longtemps que je couvre des tournois des recrues. Il y a des années où c'était Jacob Delarose, Jared Tinordi, Nathan Beaulieu, Nikita Sherbak. Cette année, c'est quand même différent, surtout à la ligne bleue. Oui, il faut peut-être appuyer le pied sur le frein. Tantôt, on parlait d'Hudson. Petite conversation à bâton rompu avec Francis Bouillon mardi après sa mêlée de presse. Puis, tu sais, des fois, les gars qui sont hyper talentueux peuvent avoir une tête de cochon où ils vont être plus fermés aux conseils. Puis, dans le cas de Lane Hudson, quand Bouillon passe du temps avec lui, il dit c'est tout le contraire. C'est un jeune homme qui a une super modestie, qui veut apprendre. Ça, c'est le fun aussi de voir que oui, il y a du talent qui va sortir de ses oreilles, mais c'est aussi un petit gars qui veut écouter. À la ligne bleue, c'était honnêtement, c'était pour les deux matchs des recrues, il y avait quatre gros noms. Lane Hudson, David Reinbacher, Adam Engstrom, puis Logan Mailloux. Puis les quatre ont quand même ressorti. Il y a eu des hauts et des bas pour certains d'entre eux. On va en revenir plus tard. C'était deux matchs contre les Maple Leafs. Le résultat final, je pense honnêtement, c'est 5-4, 4-3 là, de non, mémoire. Deux défaites. Tu peux prendre le résultat, le placer aux poubelles. Le Canadien n'avait pas de gardien, entre parenthèses, qui appartenant au CH. Jacob Fowler est toujours du côté de Boston, on ne pouvait pas venir. Quentin Miller est blessé. Ouais, ouais. Donc, puis les Leafs, il y avait quand même un gros trio avec Easton Cowan, Fraser Minton. Donc, mais j'ai aimé aussi la petite formule, même si c'est le fun de voir plusieurs équipes en un week-end ou en quelques jours. Deux matchs contre les Maple Leafs, ça a fait un petit peu grimper l'intensité. Ça a créé une rivalité rapidement. Puis ça reste... On dirait qu'il y a quelque chose dans l'air quand c'est Montréal-Toronto. C'est plus intense que Montréal-Columbus un samedi après-midi.
Oui, puis j'ai aimé... De l'autre côté, j'ai aimé Easton Cowan. Il va être à surveiller, lui. Je ne sais pas s'il y a une place qui l'attend du côté de Toronto cette année. Peut-être que c'est plus des routes de profondeur qui sont disponibles à Toronto, mais il y a un petit peu de chien, lui, honnêtement.
Il y a un peu de tout, je te dirais.
Il y a un peu de tout, là, mais je vais dire, s'il y en a qui sont dans leur pool de hockey présentement, peut-être un gars ciblé dans les pools de recrues ou peu importe, parce que très intéressant pour un choix fin 27e, 24, 26, 27e. 20... Là.
Ouais, fin de premier tour.
Fin de premier tour, exactement. Là, dans le cas.
T'as parlé il va être à surveiller aussi. Il va être à surveiller quand même pour le Mondial Junior. Là. On a le temps d'en reparler. Ça va être un joueur d'impact dans cette formation.
Non, exactement. Tu parlais de Francis Bouillon. JF, il se retrouve-tu un petit peu? Parce que Francis Bouillon, moi, je me souviens, quand il jouait avec les Prédateurs de Grimbay, on se disait à cette époque-là, le hockey senior l'attend dans pas très long. Francis Bouillon, c'est un défenseur talentueux, mais tellement tout petit, il n'y a pas de place pour ces joueurs-là dans la LNH, même dans la Ligue américaine. Lui, il a passé par les Roadrunners de Montréal. Là. Je pense que ça en dit assez long sur quel potentiel plusieurs voyaient à Francis Bouillon à l'époque. Mais tu sais, est-ce qu'il se voit en lui? Puis en même temps, qu'est-ce qu'il voit lui? Parce que bon, Bouillon, pour ceux qui ne savent pas, s'occupe du développement des joueurs des Canadiens. Tu sais, qu'est-ce qu'il voit comme pour chemin de développement, chemin de progression pour l'Inotune? Qu'est-ce qu'il doit intégrer à son jeu? Ou qu'est-ce qu'il fait bien présentement qui ne doit pas toucher?
Ben, j'ai posé la question hier à Francis, puis il souriait parce qu'il disait, à part peut-être le tape à mesurer, il n'y a pas grand-chose de semblable entre Francis Bouillon et Lane Hudson. Bouillon était 5 et 8, mais Francis a atteint la ligne nationale parce que c'est un défenseur robuste, un défenseur physique. C'est pas lui qui dansait à ligne bleue avec la rondelle comme Lane Hudson, mais il peut... Ce qu'il disait de Lane Hudson, il sait qu'il est petit, il a toujours été petit, il va rester petit, il ne va pas avoir un bouton magique puis ça va changer. Mais comment il défend son territoire, c'est par son intelligence, c'est par sa tête, c'est pas par son physique, c'est par son positionnement, c'est en coupant les lignes de passe, etc. Puis ça ne changera pas pour Lane Hudson. Bouillon, hier, il avait le grand sourire, comme je disais tantôt, en parlant de lui. Il y a une belle collaboration entre les deux joueurs. Puis c'était comique aussi parce que Francis a croisé Brendan Shanahan en fin de semaine, puis il disait que Shanahan l'a regardé dans l'ascenseur en disant « Toi, t'avais beau être petit, t'es celui qui pouvait le plus me surprendre avec un reverse check, là, une mise en échec pratiquement de dos. » J'ai pas la bonne traduction.
Une mise en échec renversée, j'imagine. Ouais. Ouais, c'est ça.
Bouillon, c'est quelqu'un qui n'est jamais repêché dans le junior, avait réussi à percer le Titan de Laval malgré tout, jamais repêché au niveau de la Ligue nationale. C'est pas le même chemin pour Lane Hudson. Lane Hudson, c'est quand même un choix de deuxième tour. Mais les petits défenseurs, on a tendance à dire 5 et 10 dans le cas de Lane Hudson. Je m'amusais hier à regarder des défenseurs de 5 pieds 10 pouces et moins dans la Ligue nationale qui ont joué un match l'an dernier. Il y en a 16 seulement sur 315. Le plus gros nom par 3 km, c'est Quinn Hughes. Ça reste une rareté, les petits défenseurs. Mais Hudson, c'est un talent rare aussi. Donc, je pense qu'il peut se faufiler. Vas-y, Guillaume.
D'ailleurs, au tournoi de golf, j'ai trouvé ça intéressant de questionner Nick Suzuki, capitaine, sur Lane Hudson, sur ce qu'il avait vu, parce que Lane Hudson s'entraîne quand même avec les gars de l'équipe depuis son arrivée à Montréal. Il y a des petits entraînements... dont les joueurs s'occupent eux-mêmes. Là. Les entraîneurs ne sont pas sur la glace.
Mais
il
dit, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Mais il dit... il me fait penser à Quinn Hughes avec la façon dont il patine, la façon dont il voit le jeu. J'ai trouvé ça... Tu sais, habituellement, les joueurs se gardent une petite réserve, ne veulent pas mettre la barre trop haut pour les comparaisons et tout ça. Mais de voir Nick Suzuki qui dit... directement comme ça, Quinn Hughes, instinctivement, quand on lui a demandé une comparaison ou d'analyser le jeu de Lane Hudson, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça démontre que les joueurs, tu sais, ils voient bien ce qui est en train de se passer sur la patinoire. On a vu quelques extraits pendant les dernières semaines, tu sais, Lane Hudson sur la patinoire contre Caden Gooley en un contre un, puis je pense qu'il... Il a vraiment tordu une cheville là, pendant une bataille à un contre un. Fait que ça démontre quand même que c'est un joueur qui compte la compétition de la Ligue nationale et quand même capable de tirer son épingle du jeu pour le moment. Voyons voir ce qu'il va faire là, dans les prochaines semaines, dans les matchs préparatoires.
Parce que je me souviens, à son année de repêchage, Hudson, ce que les gens disaient, c'est s'il mesurait 2-3 pouces de plus, ce serait un choix top 15, peut-être top 10, parce que les habiletés sont là, le talent est là, l'intelligence est là, mais il est trop petit. Sauf que je me souviens, Hudson est arrivé avec un papier de son... Je n'ai pas le nom, là, c'est un nom long, mais le docteur des eaux, là, si vous voulez, là, puis qui avait dit « t'as pas terminé ». Le papier disait en gros, parce que lui, il s'est présenté à toutes ses entrevues avec le papier en disant « regardez, ce spécialiste-là dit que j'ai pas terminé de grandir ». Mon père mesure, je pense que son père mesure à peu près ça, 5 pieds 10, je vais l'atteindre le 5 pieds 10. Il l'a présentement, bon, avec des petits blocs en dessous des pieds, là, mais il l'a supposément, ce Saint-Piédis-là, présentement. Mais en même temps, je dis Kyle McCarr aussi a des petits blocs en dessous des pieds, puis Quinn Hughes aussi, là, c'est... On fait la blague, là, mais ils sont tous mesurés, entre guillemets, avec les patins.
Avec
là.
Des patins.
Exactement. Mais il les a présentement. Donc, on dit que c'est un choix de deuxième tour. C'est un choix que peut-être plusieurs équipes ont échappé. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde le voyait, le talent, c'est pas nouveau. Il manquait juste 2 pouces.
Oui, mais Nick, tu sais, oui, plusieurs recruteurs croyaient que Lane Hutson avait un talent premier tour. Puis même, c'était une possibilité de le voir sortir à la fin du premier tour. Mais quand on dit que le repêchage reste une science inexacte, le Canadien, cette année-là, c'est Juraj Slafkovský, premier au total. Lane Hutson, 62. Mais entre Slafkovský et Lane Hutson, il y a Owen Beck et il y a Philippe Méchard. Philippe Méchard était un choix de premier tour, 26e au total. Si on refaisait l'exercice 2 ans plus tard, il y en a qui s'amusent à faire ça, le refaire des repêchages 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard.
Il y en a qui le font, le repêchage vient de se terminer.
Exact. Mais Lane Hutson sortirait avant Philippe Méchard. Ça, il n'y a aucun doute ce sujet-là. Puis, tu sais, on parle tantôt on a parlé de Quinn Hughes. Dans la même fin de semaine, Pascal Vincent, qui est l'entraîneur du Rocket de Laval, mais en fin de semaine, dirigeait les Espoirs. La première journée, quand il a voulu offrir une comparaison avec Lane Hutson, il a utilisé Adam Fox. Le lendemain, il a utilisé Tobias Enstrom. Tobias Enstrom a eu une belle carrière dans la Ligue nationale, un bon petit défenseur, mais quand même pas Adam Fox. Je me demande s'il n'a pas eu un petit mot à son oreille, s'il n'a pas glissé. Peut-être, essayons d'éviter Fox, Hughes, Makar, mais Makar est plus grand. Question de peut-être limiter justement un petit peu les attentes.
Adam Fox avait été un choix de troisième round. Quand il passe.
Puis Adam Fox, lui, par contre, ne voulait pas jouer avec les Flames de Calgary.
Flames ou la Caroline. Donc,
exact.
Il a un peu choisi sa piste d'atterrissage. On va lâcher Lane Hutson. On va aller vers Logan Mailloux, qui, bon, lui, ça va être sa deuxième saison professionnelle. On le sait, l'année dernière, avec le Rocket, avait eu besoin d'une réinitialisation de son jeu, là, si je peux dire, mais de s'habituer au jeu professionnel beaucoup. Ça a pris un peu de temps, mais lorsque ça a démarré, belle fin de saison, a joué deux matchs avec les Canadiens?
Un match,
et voilà. T'es capitaine pour ce tournoi des recrues-là. Vous avez pensé quoi de lui, de Logan Mailloux?
Moi, j'ai trouvé que c'est très bien débrouillé avec Lane Hutson. Justement, ça a été, honnêtement, c'était le meilleur duo sur la patinoire, là. C'est un gars qui joue physique. Dans le deuxième match, il a marqué un superbe but. Écoute, c'était un laser dans la lucarne. Là, il y avait un petit espace. Il a été capable de placer la rondelle dans l'espace libre. Donc, pour moi, c'est un camp des recrues réussi pour Logan Mailloux. Je veux dire, c'est pas vraiment une surprise. On s'attendait à ce qu'il soit un joueur dominant là. Il a dominé dans plusieurs catégories dans la Ligue américaine l'année dernière, catégorie offensive. J'ai vraiment aimé le duo qu'il formait avec Lane Hutson. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va vouloir explorer éventuellement? Probablement.
Et à quel endroit? Parce que là, c'est la prochaine question qu'on va se poser.
Ouais, c'est ça.
On l'expérimente à Laval ou à Montréal?
Ben, honnêtement, je serais très surpris qu'un des deux ne commence pas la saison à Montréal. Là. Mais on y reviendra. Mais pour moi, Logan Mailloux est resté dans son identité. Ça a été un des joueurs dominants cette fin de semaine. Donc, la suite, comme on dit, ces matchs-là, c'est dur. On peut bien en parler pendant 25-30 minutes, là, mais ça reste des matchs contre des gars qui retournent junior, qui vont jouer dans la Ligue américaine, peut-être même dans la ECHL cette saison. Donc, tu sais, il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont, mais les joueurs qui sont dominants doivent dominer ces matchs-là. Puis Logan Mailloux, il l'a fait à l'image de Lane Hutson en fin de semaine. Donc, c'est un bon départ pour lui.
Moi, je vais ajouter, là, tu es d'accord avec Guillaume, c'est un passage réussi pour Mailloux, ce petit tournoi des recrues-là. Mais c'est un défenseur qui se présente aussi avec un carton d'invitation à ce camp très intéressant. Là. 47 points l'an dernier dans la Ligue américaine. C'est une très, très bonne production. 14 buts. On a tendance des fois à sous-estimer la Ligue américaine. Mailloux avait seulement 20 ans l'an dernier, a connu une très bonne saison. L'unique match qu'il a joué dans la Ligue nationale s'est très bien débrouillé. contrairement à Hudson, bien, c'est 6 et 3, 220 livres. C'est un gros défenseur, il est pesant, il frappe, il a un super bon tir. J'ai aimé aussi porter un C pour le week-end. Quand Lane Hudson s'est fait renverser par Matthew Feeney, un des premiers joueurs qui est venu défendre son coéquipier, c'était Logan Mailloux. Je suis convaincu que le Canadien va regarder très, 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 très attentivement Logan Mailloux au prochain camp. C'est possible pour lui de gagner un poste. C'est possible aussi pour Lane Hudson de gagner un poste, mais ils ne vont pas tous y parvenir. Puis il y a toujours aussi des technicalités à ne pas oublier. Justin Barron, par exemple, qui va se retrouver dans une course contre Logan Mailloux, deux droitiers. Barron, si jamais on souhaitait le retourner du côté de la Ligue américaine, doit passer le balotage. Le Canadien ne voudrait pas perdre un actif comme Justin Barron sans ne rien obtenir en retour. Mais bon, on est encore loin. Il n'y a pas encore un match de jouer au camp. Mais c'est, je suis convaincu que Mailloux cogne à la porte, puis il cogne fort. Ce n'est pas comme à Belleville où tu as besoin de à peine cogner pour s'entendre. Mailloux, là, on le sait qu'il est là.
Guillaume, tu as parlé avec David Reinbacher. Bon, dans son cas, on parlait du Rocket de Laval tantôt, puis ça semble être plus le chemin pour lui. Là, et je pense qu'il faut être logique, là, que surtout avec, on l'a dit, avec la ligne bleue qui est quand même assez remplie. Merci pour ce cas d'entraînement-là. Mais son week-end a été, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais tu sens que ce joueur-là a encore besoin d'une bonne année minimum, un peu comme Mailloux a fait, là, dans le fond, là, une bonne année dans la Ligue américaine avant de s'amener dans la Ligue nationale. Là.
Je n'irai pas jusqu'à me commettre sur une année complète, mais Pascal Vincent, après le match, disait que lui a déjà dirigé évidemment des Européens, puis il dit qu'à y arriver ici, ça leur prenait jusqu'au fait pour vraiment être confortable avec la dimension de la patinoire. Mais non seulement ça, aussi le style de jeu nord-américain, c'est différent. Là. C'est, on ne parle pas de la même chose. Je veux dire, oui, il y a plus d'espace sur la glace en Europe, mais je pense que le style de jeu est plus porté sur... Tu sais, c'est plus un jeu d'échecs que du jeu physique puis du jeu où il faut que tu prennes des décisions rapides et
en contre-attaque, et... là.
Ouais, exactement. Ouais. Là, tu sais, ici, t'as une seconde pour prendre ta décision puis relancer le jeu vers l'avant. Tandis que là-bas, j'ai l'impression que tu peux te permettre d'être un peu plus patient. Le petit bémol que j'apporterais là-dessus, c'est que tu sais, l'an dernier, il faut se rappeler que c'est la même chose au camp. Dès que Reinbacher est arrivé, on se disait « OK, il n'y a aucun doute, il faut qu'il retourne en Europe, qu'il aille passer la saison-là. » C'est ce qui est arrivé éventuellement, mais plus le camp a avancé, moi, je me souviens que vers la fin du camp, on se disait « Ah, il y a peut-être des chances qu'il reste à Laval, ça serait peut-être bon, il est peut-être prêt justement à passer à cette phase-là de son développement. » Donc, je ne tirerais pas des conclusions rapides là, après deux matchs, parce que même Philippe Méchard le disait, le match de samedi, c'était son premier en plusieurs mois. Tu retrouves tes repères, tout ça. C'est certain que, bon, tu compares à un Hudson, un Mailloux qui ont dominé, qui ont eu des bons flashs et tout ça, Reinbacher n'était pas sur le même pied d'égalité. Mais il a quand même eu des bons flashs. Il a montré qu'il était capable de, à la ligne bleue adverse quand même, de diriger le jeu. Il a eu des bonnes séquences. Il jouait avec Adam Engstrom aussi, qui est un autre Européen qui arrive en Amérique du Nord. Les deux, honnêtement, dimanche, je pense qu'ils ont eu plusieurs bonnes séquences. Comparativement, je n'ai pas vraiment regardé le match de samedi. C'était Jean-François qui était là, mais je pense que dimanche, on voyait déjà un peu plus d'aplomb dans leur jeu. Puis Pascal Vincent l'a souligné, que Reinbacher, entre le match de samedi et dimanche, il a déjà vu une amélioration. Donc, il dit, je pense que son adaptation va se faire assez rapidement. Là, plus il va jouer sur la petite patinoire, plus il va avoir des matchs, des entraînements et tout ça, plus on va voir sa vraie nature. Donc, on s'en reparlera peut-être dans une semaine ou deux quand il aura joué des matchs préparatoires. J'ai l'impression qu'on pourrait se dire que Reinbacher a vraiment une progression intéressante dans ce camp-là.
Moi, je vais reprendre les mots de Francis Bouillon. Là. Il disait « il n'y a pas de presse avec David Reinbacher ». Quand tu dis « il n'y a pas de presse », généralement, c'est un indicateur que l'objectif reste la Ligue américaine. On a plus encerclé le Rocket que le CH pour David Reinbacher. Mais je regarde sa dernière saison à Cloton, avant de traverser en Amérique du Nord là, pour les derniers matchs du calendrier dans la Ligue américaine. Reinbacher a eu trois entraîneurs différents avec le HC Cloton. Donc, zéro stabilité pour lui à sa dernière saison en Suisse. je pense que de se retrouver dans un environnement où il va grandir avec Pascal Vincent, avec Daniel Jacob, va avoir le même message pendant plusieurs mois, ça va l'aider. Il n'y a rien de mal pour lui à jouer une saison dans la Ligue américaine. Il va avoir 20 ans au mois d'octobre. Ça reste un jeune défenseur. Oui, c'est un cinquième choix au total. Mais c'est quoi qu'on veut avec David Reinbacher? Est-ce qu'on veut bousculer les étapes ou tu souhaites construire un défenseur qui sera bon pendant une dizaine d'années? Je pense que c'est la deuxième réponse. Donc, un passage à Laval, pour moi, ça semble absolument logique. Puis même si ça doit être la saison au complet comme Logan Mailloux, ben, il n'y a pas de problème non plus. Mais on peut jamais parier. Si dans 4 mois, il y a 4 blessés à ligne bleue du CH, bien, ça se peut qu'on voit des noms qu'on croyait les voir à Laval plus longtemps.
C'est d'autres recrues qui vous ont impressionné en terminant?
Moi, j'ai bien aimé Adam Engstrom. C'est un défenseur intelligent, mobile, bon patineur.
Un autre.
Puis Engstrom, c'est oui, il y a des saisons en Suède derrière la cravate, mais c'est la première fois qu'il participait à un tournoi des recrues. Première fois qui portait réellement le chandail du CH. Quand on lui demande de se comparer à un joueur, il regarde en direction de Gustav Forsling en disant je ne suis pas Gustav Forsling en ce moment, mais c'est celui que j'aimerais devenir. Je trouve que c'est une très belle comparaison parce que Forsling, c'est un gars qui a rien, on dirait, d'extraordinaire, mais il fait tout de bien sur une glace. Guillaume, je ne sais pas qui d'autre t'a marqué. Owen Beck, c'est le Owen Beck qu'on croit voir, là, intelligent, bon au cercle des mises en jeu. Petite déception peut-être dans mon cas avec Philippe Méchard, avec Sean Farrell. On dirait que je reste souvent sur mon appétit avec les deux attaquants. Je m'attendrais un petit peu plus de mordant offensif. Puis Guillaume, je pense que tu as bien aimé le trio. Comme tu mesures CC4, CC5, tu as aimé le trio des colosses chez les jeunes Canadiens.
Je m'en allais exactement là. Luke Tuck, c'en est un que, tu sais, il y a quelques mois, on se demandait si le Canadien allait lui donner un contrat, s'il allait rester dans l'organisation. Et là, on l'a placé sur un trio avec Florian Jacquet puis Tyler Thorpe, deux gars de CC4, assez imposants, des gars qui ont du chien. J'ai vraiment, vraiment aimé ce trio-là. Je pense que Thorpe va retourner junior, mais pour ce qui est de Jacquet et Luke Tuck, on risque d'aller voir à Laval cette saison. Je pense que c'est un duo que le Canadien aurait avantage à voir grandir ensemble parce que quand tu regardes ces joueurs-là...
Ils ont pas mal grandi, je te dirais. Ils sont pas mal grands déjà, là, mais...
Quand tu regardes leur identité, leur ADN, ben je pense que ça pourrait cadrer parfaitement dans un rôle de troisième trio fatigant ou quatrième trio. Tu sais, deux gars qui frappent, qui sont les premiers sur la rondelle, qui ont du mordant, qui n'ont pas peur de jeter les gars, de brasser un peu devant le filet. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis Luke Tuck, honnêtement, m'a quand même impressionné. Tu sais, c'était la première fois de sa carrière il n'a pas joué dans les rangs universitaires, il n'a pas joué en désavantage numérique. Il avait cette mission-là en fin de semaine. Il a très bien fait en compagnie de Jacquet. Puis, il a causé plusieurs revirements, plusieurs chances de marquer de l'autre côté. Donc, j'ai été agréablement surpris par Luke Tuck.
Tuck, t'as Boston College, hein, si je ne me trompe pas.
Oui, Boston University. University.
Ouais, dans la...
Avec Lane Hudson.
Ah, c'est ça, OK. Bon, mais, que ce soit Boston University ou Boston College, c'est deux gros programmes.
Exact.
Ce qui faisait qu'il se retrouvait un peu plus dans l'ombre aussi. Là. Il n'y avait pas les responsabilités que s'il était allé à Bemidji State ou à Colorado State, là, mettons. Là.
Mais je pense pas que c'est un attaquant non plus qui va transporter
non.
L'équipe. C'est un joueur de rôle, mais t'en as besoin dans une équipe. Puis Luke Tuck est quand même 6'3", il est 210 livres, patine bien. Je me rappelle les paroles de Mike Babcock quand il décrivait Frédéric Gauthier en disant que son grand avantage, c'est qu'il est 6'5 à chacune des présences. Ben, Luke Tuck va être 6'3 à chacune des présences. Mais un détour par Laval, lui aussi, ça semble la destination logique.
Je pense pas que c'est un joueur qu'on va voir d'ici un an ou deux. Là. Je pense que le développement va peut-être être un peu plus long. Il y a déjà 22 ans. Là, c'est un joueur qui sort des rangs universitaires, mais un bon développement, je pense que c'est un joueur qui peut remplir un rôle très précis là, dans une équipe gagnante éventuellement.
Les gars, on lâche les recrues, on passe vers le grand club. Les Canadiens, c'était le tournoi de golf lundi. Bon, c'est tout le temps une mise en bouche de ce qui s'en vient. On y va un peu de nos pronostics. Dans les dernières années, c'était rarement positif. positif, le mot en P, mais surtout P pour playoffs, un mot qu'on ne voulait pas vraiment employer dans les dernières années. On ne l'a pas fait cette année. On a trouvé un autre terme tout aussi francisé, c'est-à-dire être dans le mix. Mais vous sentez un peu d'optimisme, lentement, mais sûrement, on le sent, cet optimisme-là. J'ai l'impression que les autres années, on faisait tout pour pas créer des déceptions. Maintenant, cette année, on fait tout pour pas s'emporter, être emporté par cet optimisme-là.
Ben oui, il y a un vent d'optimisme. Le Canadien, là, vraiment, la philosophie, le mot sur lequel, le slogan, si on veut, ou même la ligne de parti, c'est ça, être dans le mix, qu'on pourrait traduire par être dans le coup, se battre pour une participation aux séries. Jeff Molson, Jeff Gorton, Kent Hughes, Martin Saint-Louis ont tous utilisé la même formulation. Chez les joueurs, c'est un message un peu différent.
Juste avant, je t'écoute. Ça, est-ce que c'est un travail de communication?
Oui, absolument. Mais être dans le mix, ça revient, si je ne me trompe pas, là, depuis le bilan de fin de saison. Kent Hughes l'avait dit première fois. Okay. Oui, il y a du Chantal Maccabée probablement derrière la formulation. Mais en même temps, moi, je trouve ça quand même intelligent parce que c'est sage. Tu sais, c'est tellement vague. Puis même la définition est différente de Molson à Gorton à Hughes. Il n'y a personne qui arrive avec la même explication. Mais je crois que chez les Canadiens, l'objectif, mais on voudrait jouer des matchs symboliques tard dans la saison.
Ouais.
C'est-à-dire, tu ne veux pas être une équipe qui va vendre plusieurs vétérans au mois de mars, déjà trop loin d'une participation aux séries. Mais si tu fais un bon classement, si tu te bats pour une place en série, mais c'est déjà un pas de gagné. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Il faut rester réaliste avec cette équipe-là. Le Canadien, l'an dernier, a fini à moins 53, le différentiel de but pour, but contre. C'est une équipe qui a 17% en supériorité numérique, 76% en infériorité numérique. Il y a beaucoup de lacunes à travailler. Oui, l'acquisition de Patrick Laine pourrait peut-être métamorphoser l'équipe, mais on attendra. Là, je vois Guillaume qui devient impatient, qui a hâte d'enchaîner. Mais c'est ça, le discours chez les joueurs est vraiment différent. L'équipe, tu sens qu'ils veulent gagner cette année.
Ce que tu me dis, c'est qu'on ne va pas afficher « être dans le mix » sur le mur du vestiaire comme « no excuses » à une certaine époque.
Non, je pense pas.
Non, mais je pense que c'est tout à fait normal de voir les dirigeants être quand même sur les freins quand on leur demandait leurs objectifs. Parce que là, honnêtement, comme disait Jean-François, il y a quatre définitions. On ne sait pas vraiment ce qui serait une déception cette année. La barre n'a pas été fixée, on ne le sait pas. Est-ce que c'est février, être dans le mix, fin février, début mars? Pour moi, je pense que si le Canadien n'est pas nécessairement gros vendeur à la date limite, ce sera déjà quelque chose, ce sera ça de gagner. Mais c'est la réalité, c'est parce que c'est une équipe qui se base sur la progression individuelle, la progression à l'interne des individus. Donc là, c'est de l'inconnu. Je veux dire, est-ce que Slafkovský va poursuivre sur sa lancée de la deuxième moitié de saison, va exploser cette année? Là, si c'est le cas, ben OK, t'as un premier trio qui va produire à fond de train, puis ça va être correct. Est-ce que Kirby Dach va être le joueur d'impact qu'on attend à son retour au jeu après avoir raté une saison à cause d'une blessure? Autre point d'interrogation, est-ce que Lane Hudson, Logan Mailloux, s'ils font l'équipe, un ou l'autre ou les deux, est-ce qu'ils vont être en mesure de bien défendre? Est-ce qu'ils vont être en mesure de générer de l'attaque comme on s'attend à deux? Autre point d'interrogation, est-ce que Samuel Montembeault est capable de garder le fort derrière une équipe aspirante, mais une équipe qui veut se tailler une place en série, qui va jouer des matchs significatifs? Tu sais,
est-ce que gardien numéro un de la cabane? Non?
Exactement, ouais. parce que Montembeault a bien fait la saison dernière, mais ce que je me demande, c'est dans des matchs où il va y avoir plus de pression, tu sais, où on va vraiment vouloir gagner puis aller chercher les deux points, est-ce qu'il va être en mesure d'en voler ou de garder le fort solidement pour donner une chance à son équipe à tous les soirs?
Juste quand l'adversaire t'attend, parce que dans les dernières années, il n'y a pas un adversaire qui attendait le Canadien, là, qui arrivait et qui avait le couteau entre les dents. Là, lentement, ça va s'en venir, ça. Puis c'est pas la même réalité là, pour un gardien, surtout pour les gardiens.
Nick, tu parles de pas la même réalité, mais même pour Martin Saint-Louis, depuis son embauche à Montréal, Saint-Louis dirige l'équipe pour le développement. Oui, il veut gagner les matchs, ça, il n'y a aucun doute. Mais en fin de rencontre, si tu as une avance d'un but, ben il va continuer d'utiliser ses jeunes parce que c'est des minutes, c'est de l'apprentissage. Est-ce qu'il va changer son approche cette année? J'ai hâte de voir. Martin Saint-Louis disait qu'il ne sera pas plus impatient, mais plus exigeant envers ses joueurs. Donc, il y a peut-être aussi, pour une fois, plus de munitions s'il veut tourner son banc, plus de profondeur. Mais Kent Hughes et Jeff Gorton, les deux ont lancé le même message. Depuis le jour 1, Gorton Hughes, on construit pour le futur. Quand on leur pose la question, est-ce que vous allez délaisser un petit peu le futur pour le présent? La réponse est plus non que oui, dans un sens où ils ne vont pas sacrifier inutilement pour s'améliorer à court terme. Puis les deux ont dit qu'il faut garder une approche, garder la même ligne de pensée, puis qu'on ne veut pas bousculer des étapes. Il y a des équipes qui l'ont fait, qui se sont dit « OK, la construction est terminée ». On peut penser au sénateur d'Ottawa avec Pierre Dorion il y a quelques saisons, quand il a acquis Alex DeBrincat. Puis finalement, bien, la construction n'était pas terminée. Donc, j'ai hâte de voir. Il va y avoir des changements, mais ça reste une équipe qui, en théorie, doit reconstruire.
Être dans le mix, c'est possible ou c'est pas possible? Vous y croyez pas? Puis pourquoi? Je sais pas, Guillaume, je sais pas si vous avez une opinion contraire, là, peut-être vous mettre en débat, là, mais en mode opposition, mais vous y croyez ou vous croyez pas? Parce que être dans le mix, au final, là, c'est les séries éliminatoires. Là.
Ouais, c'est. Mais moi, j'y crois dans la mesure où, bon. Il y a beaucoup. Bon, il y a beaucoup de signes positifs. Fait que si je me base sur les observations qu'on a faites l'année dernière, puis ce qu'on voit un peu depuis le début du camp, je trouve qu'il y a une profondeur qui commence à être là à l'attaque. C'est quand même intéressant. Au niveau de la défensive, ben, je pense que bon, ça, c'est un gros point d'interrogation parce que, comme Jean-François le disait, c'est une équipe qui a fini avec un différentiel épouvantable l'an dernier, là, à moins 53, tu disais? Moins 53.
Ouais, moins 53.
C'est Oui, bon, OK, ça dépend aussi de l'attaque et de ce que tu es en mesure de générer offensivement, mais je pense que on se battra pas sur le point que défensivement, des fois, chez le Canadien, c'était laborieux la saison dernière. Est-ce que l'arrivée d'un Hudson, d'un Mayou peut changer la donne là? J'en doute en termes d'amélioration défensive. En termes d'attaque, c'est un autre dossier. Mais j'ai quand même espoir dans le jeune groupe d'attaquants. Je pense que le potentiel est là. Puis je pense que la courbe d'amélioration avec Martin Saint-Louis, qui a prouvé qu'il est en mesure d'améliorer ses joueurs de façon individuelle puis d'aller chercher le meilleur de chacun d'eux dans les dernières saisons, je pense que ça, c'est un point qui est intéressant. Patrick Laine aussi, qui est un point d'interrogation, on l'avoue, mais si je me fie à ce que je viens de dire par rapport à Martin Saint-Louis et sa capacité à aller chercher le meilleur de chacun des joueurs, je pense que ça peut être un bon mix. Je pense que Laine peut redevenir l'ombre de ce qu'il était. Du moins, je ne mettrai pas la barre à 40-50 buts comme lui le fait, là, mais s'il est capable d'en marquer 25, ça sera déjà ça. Donc oui, je pense que je suis optimiste. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Mais j'ajouterais à ça que, tu sais, on regarde une formation l'an dernier comme les Flyers de Philadelphie. Si tu regardes la formation, c'était pas une équipe qu'on. Il n'y avait personne qui avait classé cette équipe-là en série. Puis c'est une équipe qui a été dans le mix, puis qui s'est battue pour les séries avec un entraîneur exigeant qui avait sa façon de penser, puis qui a vraiment mis. Les attentes claires en termes de ce que tu dois offrir pour avoir ta place dans la formation. Puis il est allé chercher, tu sais, il est allé chercher tout le jus qu'il pouvait de cette équipe-là. Puis ils ont passé proche. Fait que tu regardes, je pense que honnêtement, tu regardes froidement la formation des Flyers, celle des Canadiens. Je pense qu'il y a peut-être un peu plus de potentiel du côté de Montréal en ce moment. Fait que je me dis pourquoi pas. Mais là, tout ça dépend de tous les points d'interrogation. Il faut que ça tourne du côté positif. Tu sais. Fait que. Je dis que c'est possible, mais je suis conscient que ça se fera pas en claquant des doigts.
Mais moi, je me souviens, les gars, le tournoi de golf de 2000, 22, Joel Edmondson avait dit « On y croit à une participation aux séries ». Mais tu prenais la déclaration d'Edmondson puis tu disais « Bof, OK, c'est le joueur qui n'a pas le choix d'y aller de cette formulation-là ». Je trouve que cette année, Nick Suzuki qui dit « Des choix, des espoirs, on en a à la tonne. Maintenant, on veut gagner ». Mike Matheson dit la même chose. David Savard répète la même chose. Identique pour Samuel Montembeau. Donc, il y a un désir chez les joueurs. Sans dire que la direction ne souhaite pas à tout prix gagner, on dirait que chez les joueurs, ça brûle encore plus en eux. Je comprends la direction.
C'est fatigant de perdre.
Je comprends la direction qui, elle, désire rester plus prudente. Mais la ligne de parti est tellement intelligente qu'être dans le coup, j'ai pas le choix de dire oui parce que c'est tellement vague à être dans le coup. Si être dans le mix, être dans le coup, c'est de passer de 76 à 85 points environ, j'y crois. Mais si on parle de passer de 76 à 94 points qui te donne peut-être une place en série, je trouve que le bond est trop grand. Je reste prudent. Donc,
si on parle
d'une amélioration de peut-être une dizaine de points, oui. Participer aux séries, je crois que c'est davantage 2025-2026 où là, le CH va absolument vouloir participer aux séries.
D'ailleurs, je serais curieux de savoir s'il y a des équipes qui ont fait des bons, comme tu viens de. On parle d'un bon de peut-être 20 points là, pour être des séries. Surtout dans la section Atlantique cette année, c'est pas ça qui manque, des équipes qui peuvent faire des bons, puis en même temps, des équipes qui, techniquement, ont tout ce qu'il faut pour encore aller chercher 90 quelques points. Là, donc. Ça va être différent. Vous avez parlé de Patrick Laine. Il y a un mystère avec tout ce qui s'est passé avec Patrick Laine l'année dernière, le programme d'aide. Je pense que mentalement, lui-même en a parlé un peu, que confiance, ça a tout été difficile pour lui. Il est où? Comment on peut le faire débloquer? Joël Armia a déjà commencé un peu le travail. C'est deux Finlandais. C'est Mitch Chumé avec lui à son arrivée. Ben, il se connaissait déjà là, de Winnipeg. Mais c'est quoi la clé pour faire débloquer ce gars-là? Pas nécessairement production, parce que si on regarde ces deux saisons avant l'année dernière, les deux précédentes, c'était un joueur d'un point par match ou à peu près, mais on dirait qu'il y a tout le temps un petit plus. Tu le vois qu'il y a un niveau supérieur, ce joueur-là, mais qu'il n'a jamais été capable de lui-même, ou à peu près pas, là, comme tu disais tantôt, Guillaume, là, l'ombre de lui-même, là, mais on dirait qu'à part dans ses premières années, il n'a jamais été capable d'atteindre ce niveau-là.
Ben, moi, je pense que ça part par l'environnement dans lequel on va le placer. Ce que j'aime depuis le début, puis on le voyait un peu de l'externe, là, quand il était à Columbus, à Winnipeg, on voyait un peu sa personnalité, mais la façon avec laquelle il s'est présenté au tournoi de golf lundi, c'était son premier bain médiatique, beaucoup de médias. Est-ce que c'était le premier joueur à se présenter? Je pense que oui. Au podium. Donc, tout le monde est encore au même podium. Les journalistes n'étaient pas scindés en deux parce qu'il y avait deux podiums au tournoi de golf. Donc, tout le monde était là. Il est arrivé, puis easy going. Là, c'est comme s'il rentrait dans un centre d'achat un mardi matin. Là, il n'y avait rien d'impressionnant. Puis il a même blagué avec les journalistes. Tout ça. Fait que je pense que c'est un joueur qui est peut-être taillé pour l'environnement montréalais. Tu sais, Nick Suzuki le qualifiait de laid-back, très, très easy-going, dans le sens où c'est un joueur qui ne s'en fait pas avec grand-chose, qui s'amuse et tout ça. Est-ce que, bon, là, avec les attentes et tout ça, ça risque de changer, la pression, ça va venir aussi. Mais je pense que de remettre ce joueur-là dans un environnement hockey où il y a des attentes, où les partisans suivent l'équipe avec attention, je pense que ça, de son côté, ça ne peut pas être une nuisance. Là. Je pense qu'il peut se servir de ça pour justement revenir au niveau où il était. Pour le moment, moi, j'irais vraiment de ce côté-là. Je pense que l'environnement dans lequel on va le placer, ça va être positif pour lui, puis il va être capable peut-être de lever son jeu d'un cran par rapport à la dernière saison.
Oui, puis il y a Martin Saint-Louis qui disait que l'essentiel pour Patrick Laine. Ginette Renaud disait que l'essentiel, c'est d'être aimé.
Je l'avais dans la tête, honnêtement.
Moi aussi, je suis parti à rire juste en disant l'essentiel. Mais l'essentiel pour lui, c'est de retrouver le bonheur, c'est de retrouver la passion.
C'est d'être aimé, mais écoute,
ça peut être cliché.
Ginette, là, tout a été ça coche, là.
Ben oui, mais tu sais, même on parle des deux dernières saisons à Columbus, oui, ça a été plus difficile, mais si on fait le total, c'est 73 matchs en deux ans, il a marqué 28 buts. dans un contexte où physiquement, il était hypothéqué, mentalement, bien, il a eu besoin du programme d'aide de la Ligue nationale, donc c'était difficile pour Laine. S'il revient dans un bon état d'esprit, je crois que c'est possible pour lui de rebondir. Puis c'est vrai ce que Guillaume disait, depuis la transaction pour Jordan Harris, chaque fois qu'il parle de Montréal, il a le grand sourire. Tu sens qu'il veut porter le chandail du Canadien. Puis ça me rappelle un petit peu Alex Kovalev. Quand Kovalev est arrivé, on croyait que sa carrière commençait à être sur un déclin, mais Kovalev a tellement aimé jouer devant la foule à Montréal. C'est le joueur qui voulait avoir la rondelle, qui voulait contrôler. Est-ce que Laine va pouvoir imiter un petit peu le parcours d'Alex Kovalev? On verra. Mais tu sais, on l'a souvent dit, les gars, le pari pour Kent Hughes, pour Jeff Gorton, c'est un pari monétaire. C'est de s'assurer que le 8,7 millions pour les deux prochaines années, on est capable de jongler avec. Puis c'est le cas chez le tricolore. Donc, Jordan Harris était un bon petit défenseur, mais ça n'a pas coûté la lune pour obtenir Patrick Laine. Donc, j'aime quand même l'opération où on se dit, bien, regarde, on va y aller all-in avec lui, on va lui donner toutes les chances du monde, puis on verra ce qui arrivera.
Oui, et vraiment, c'est un joueur que si tu réussis à le pousser, va aller un peu plus haut, un peu plus loin. Début du camp d'entraînement, les gars. Les premiers matchs préparatoires, c'est samedi. Canadiens, ça commence lundi contre les Flyers, ici à Montréal. Des joueurs que vous avez hâte de voir dans un contexte peut-être plus relevé. Écoute, on en a parlé quand même de quelques-uns, mais il y en a d'autres que vous avez hâte de voir dans ce contexte-là qui n'est pas avec des recrues, mais vraiment dans un contexte plus professionnel. Peut-être que vous pensez qu'ils sont capables d'aller chercher quelques matchs de plus, pas seulement le premier, puis ensuite tu te fais envoyer à Laval, là.
Honnêtement, à part ceux qu'on a nommés, je vois pas beaucoup de lutte, surtout chez les attaquants. Je pense que c'est assez clair. Il y a peut-être le cas de Joshua Roy qui va faire jaser un peu, mm-hmm. dans le sens où c'est pas un joueur, je pense pas qu'il amorce le camp d'entraînement en se disant qu'il y a une place assurée dans cette équipe-là. Pour moi, Joshua Roy a sa place, mais je pense que ça dépend aussi des performances qu'il va offrir pendant le camp. Un joueur que j'ai hâte de revoir, c'est Josh Anderson. On l'a oublié l'an dernier.
Si tu le vois, malheureusement, là, c'était un peu ça.
Ben, c'est ça. C'est parce que ça, tantôt, j'étais dans les points d'interrogation, c'en est un. Mm-hmm. Si Josh Anderson joue comme un joueur de 20 buts, comme le joueur de 20 buts qui a été dans les saisons précédentes, ben. C'est un plus pour le Canadien, mais l'année dernière, c'était plus un boulet à traîner pour l'équipe. Donc ça, c'est un joueur qui peut-être s'est servi de l'été pour faire un reset, pour revenir avec une autre mentalité. J'ai hâte de voir. On n'y a pas parlé encore. Au bilan de fin de saison, on disait qu'il allait penser peut-être à travailler avec un préparateur mental et tout ça. Donc ça va être à suivre selon ce qu'il va nous dire. Mais j'ai hâte de voir s'il a été capable justement de faire le reset puis de revenir... un joueur moindrement d'impact, là, parce que l'an dernier, là, c'est un joueur qui remplissait un chandail plus qu'autre chose.
Guillaume m'a parlé de Josh Anderson. Moi, j'ai hâte de regarder du côté de Yoel Armia.
Oui.
Le CH, d'après moi, va prier pour retrouver le Yoel Armia des 30-40 derniers matchs de la saison.
Tireur d'élite.
Armia, c'est un gars qui a tous les outils, mais lui, contrairement à un Josh Anderson l'an dernier qui restait réticent à rencontrer un psychologue sportif, Armia ne s'est pas gêné pour dire qu'il y a eu plusieurs consultations, que ça lui a donné un gros coup de main, est capable maintenant d'accepter quelques erreurs. Quand il revient au banc, il l'oublie plus facilement. Donc, si on retrouve le Yoel Armia du mois de février, mars, avril, bien, c'est un joueur qui peut venir jouer au sein d'un deuxième trio, qui peut jouer sur un troisième trio, qui est très bon en infériorité numérique. Donc, Armia m'intrigue. Je dirais aussi, Alex Barré-Boulet, la blessure à Raphaël Harvey-Pinard ouvre encore plus grande une porte pour Barré-Boulet pour s'accrocher pour un poste du côté de Montréal. C'est un gars qui se promène entre la Ligue américaine, trop fort pour la Ligue américaine, se cherche peut-être une place dans la Ligue nationale depuis quelques années, va profiter d'un nouveau départ à Montréal après plusieurs saisons dans l'organisation du Lightning, puis un petit passage à Seattle. Puis je dirais le troisième joueur, c'est un choix peut-être du champ gauche, mais William Trudeau. On a tellement parlé de tous les jeunes défenseurs que Trudeau passe dans l'ombre, mais il reste jeune à 21-22 ans dans le cas de William Trudeau. Il va avoir 22 ans le 11 octobre. Il y a deux saisons complètes maintenant dans la Ligue américaine. c'est un défenseur qui ne ressort pas par une qualité X, mais qui est quand même complet, qui a plus de bagages. Donc, il n'y a aussi aucune pression, on dirait, pour William Trudeau à ce camp. C'est pas lui dont il se retrouve pas sous les réflecteurs. Donc, il pourrait peut-être passer du fait qu'il passe plus incognito pour venir un petit peu mêler les cartes.
J'ajouterais juste une petite info dans le cas de Yoel Armia, dernière année de contrat. Ça, habituellement, c'est synonyme de bonne saison. Donc, on peut être optimiste dans son cas.
Allez, gars, avant de vous laisser aller à. Ben, comme, êtes-vous. Non, aujourd'hui, c'est les tests physiques, vous n'êtes pas présent. Êtes-vous là?
Et non, je ne ferai pas les tests physiques.
Non.
Mes résultats de chin-up seraient décevants.
Ben, tu sais, à un moment donné, des résultats négatifs, c'est quand même. Que, ça paraît ça, pas bien, mais.
On a souligné, je pense que Pascal Vincent a souligné qu'Owen Beck avait été le meilleur dans à peu près toutes les catégories et les tests physiques. Là. Je pense que Chaumont serait à l'opposé de la liste dominée par Owen Beck.
Attends, ça dépend combien de journalistes sont là. Soyons francs, je ne suis pas sûr que Chaumont est le
pire.
C'est vrai. Tout dépendant. Là. On revient. Avant de vous laisser aller, hey, je veux parler. Il y a eu plusieurs signatures de contrat dans les derniers jours. Lucas Raymond qui s'est entendu finalement avec les Red Wings. Essa Lindell, Thomas Harley, hier qu'on a lancé ça comme deux petites bombes du côté de Dallas. Mais bien évidemment, le contrat qui retient l'attention, c'est celui de Sidney Crosby. Prolongation, on n'attend pas la fin du contrat, on ne laisse pas de doute sur les intentions de Crosby. On vient de se débarrasser de tout ce qui aurait été les nombreuses questions dans le vestiaire cette année. 8,7 millions, même salaire pour 2 ans de plus. Moi, si je suis l'agent de Crosby, à un moment donné, je me frustre là, parce que ce joueur-là laisse encore une fois beaucoup d'argent sur la table. On le sait, son précédent contrat, c'était aussi de 8,7 millions. C'était pour 13 ans, par contre, à l'époque. On avait des contrats un peu plus... La convention collective permettait ces longs contrats-là. Mais cette décision-là de Crosby... Autant qu'on a parlé de Leon Draisaitl récemment, puis on a dit Draisaitl n'a pas laissé d'argent sur la table. Crosby, lui, voit la situation à Pittsburgh, sait qu'il aurait pu avoir quoi? 12 millions par année sur le marché des joueurs autonomes? On dit un petit 11-12, quelques sous.
Un joueur qui a passé le cap des 90 points dans les deux dernières saisons, je veux dire, ça se paye aussi. Donc, je pense pas fou de penser à un 10-11 millions.
Juste pour les chandails que ça va te faire vendre.
Non. Crosby reste Crosby. C'est quand même hallucinant de réaliser que jamais possiblement il va avoir gagné 10 millions dans sa carrière.
Non.
Sur 10 millions sur l'empreinte salariale. Moi, j'aurais aimé ça être un petit oiseau dans les négociations pour voir les yeux de Kyle Dubas. Dubas a passé toute sa carrière probablement à essayer de dire à Austin Matthews, à William Nylander, à Mitch Marner, mais mettez un petit peu d'eau dans votre vin, les gars. T'sais, on pourrait suivre le modèle Pittsburgh. Sidney Crosby a accepté de gagner moins pour en laisser plus à ses coéquipiers. C'est jamais arrivé. Puis... La fascination aussi pour le 8.7, Crosby porte le 87. Crosby est né en 1987. Il est né le 7 août, donc le 8 du 7. C'est renversant de voir à quel point il est attaché à ce chiffre-là.
Le mot que tu cherches est maladif, mais en tout cas, continue.
Ouais, je vais être plus poli. Puis j'ai aimé aussi la façon que les Pingouins l'ont fait, les gars. C'était la journée où les joueurs allaient remettre des billets, des abonnements de saison aux partisans. Et par un curieux hasard, c'est cette journée-là que Sid obtient sa prolongation de contrat. Donc, il se retrouve à faire une mini-conférence de presse chez Jacqueline et Raymond là, dans le coin de Pittsburgh, qui eux sont contents d'ouvrir la porte à Crosby. Donc, c'est un beau clin d'œil. Puis, tant mieux. Écoute, c'est un gars qui a mis une valeur à porter le même chandail pour toute sa carrière, comme Mario Lemieux, comme Steve Yzerman, comme Joe Sakic. Puis, il le fait encore à 37 ans. Moi, j'étais persuadé, les gars, qui brisaient les 10 millions et plus. Je me disais, oui. OK, ça va être une petite prolongation de contrat probablement, mais pour une première fois, il va être à plus que 10. Mais non, il aura réussi à nous surprendre encore une fois.
Ben, c'est parce qu'on a déjà vu des joueurs être payés, tu sais, signer un contrat par après, puis être récompensé pour les années précédentes. Crosby, mm-hmm. dans les 13 ans de son contrat, a amené 3 Coupes Stanley à Pittsburgh. Je veux dire, ça aurait mérité, même si on se dit, OK, c'est un gars de 37 ans, il prend de l'âge, il va ralentir éventuellement. Il aurait mérité d'être payé pour les succès qu'il a amené à Pittsburgh puis pour ce qu'il a fait pour cette organisation-là, là, parce qu'on s'entend qu'il y a eu des saisons plus difficiles où on se demandait un peu où ça s'en allait avec les Pingouins, puis il a rempli l'aréna pendant toutes ces années-là. Chapeau à lui, tu sais, on parlait de leader puis d'exemple, mais c'est Nick Crosby, honnêtement, c'est un parcours sans tâche là, jusqu'à maintenant. Là. Il prouve année après année. C'est un des grands leaders, un des grands joueurs de sa génération. Puis je pense qu'avec cette décision-là de rester à Pittsburgh encore pour 2 ans, à ce salaire-là, c'est un autre exemple de ça. Puis je pense pas qu'il a regardé l'équipe et il s'est dit hey, « Hey, je reste ici parce qu'on a des chances de gagner la coupe dans les deux prochains. » Ouais, c'est ça. Il l'a fait par principe, parce que c'est son équipe, parce que c'est sa ville. Puis il a décidé de rester là. Donc, chapeau à Sidney Crosby.
Ouais, puis à l'époque, les gars, c'était 12 ans, le contrat de Crosby qui était dans l'autre. Ouais, c'est pas grave.
Ah, mais je pense qu'il restait une année.
Ouais, il restait une année, donc ça faisait techniquement 13. Mais, tu sais, puis je pense que les Pingouins, Guillaume, tu le disais, Nick aussi, c'est plus une équipe qui désire aspirer à la Coupe Stanley, mais c'est une équipe qui va être dans le mix. Puis avec son 8,7 millions. Au lieu de 10 ou 11, ça te permet d'avoir 3-4 millions pour investir pour un autre attaquant, pour un autre défenseur. C'est le capitaine qui a mis l'équipe avant le joueur. C'est fidèle à Sidney Crosby. Mais l'envers peut-être aussi de la médaille dans son cas, en revenu publicitaire, c'est possiblement un des joueurs qui a gagné le plus de millions au cours de sa carrière. Ça. Tant mieux pour Sidney Crosby, tant mieux pour Pat Brisson. Mais c'en est un qui a compris que dans un contexte de plafond salarial, tu dois parfois prendre un moins gros morceau du gâteau pour rester le joueur d'équipe, puis Crosby le fait parfaitement.
Et ça s'était ressenti aussi quand Evgeny Malkin a signé son dernier contrat. Souvenez-vous, ça s'était étiré là, vraiment jusqu'à la date limite avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes. À vous dire, les discussions étaient terminées. Malkin s'en allait ailleurs et c'est Crosby qui est intervenu puis qui a rencontré Malkin puis qui lui a dit « Écoute, là, on va finir ça ensemble, là, toi puis moi, là, on pas pour quelques 1 million de plus sur la table ou peu importe ce que ça pouvait être le chiffre. Là. On va pas ruiner ce qu'on a construit pour quelques sous. » Puis après ça, ben, les bottines ont suivi les babines, là, comme on dit, parce qu'il vient d'accepter ce contrat-là à rabais. Et comme tu dis, la balle est dans le camp de Carl Dubus à partir de maintenant. C'est-à-dire, je viens de te donner le rabais. T'as un beau rabais, là, t'as un 4-5 millions et même plus, là, parce que dans 2 ans, ce, avec le plafond qui va monter, va avoir un peu plus de marge de manœuvre. Donc, trouve-nous des renforts. Pour venir nous aider. Les gars, terminant le podcast, Guillaume, début de la saison de LHJMQ ce vendredi, des matchs un peu partout. Cette année, la Coupe Memorial qui va être disputée au Québec à Rimouski. Donc, on va suivre bien évidemment l'Océanique, entre autres. Tu as un texte qui s'en vient. Là, on est mercredi, là, mais jeudi matin, là, ça devrait être en ligne sur lnh.com. Texte au sujet des meilleurs espoirs. Tu t'es entretenu avec l'ami du podcast, comme on dit, JF Danfous, dépisteur du bureau central de la LNH. Qui, justement, vous avez parlé un peu là, des joueurs à surveiller en vue du prochain repêchage.
Oui, on a parlé entre autres de Caleb Desnoyers qui part avec une longueur d'avance dans cette cuvée 2025. Oui, cuvée 2025 du repêchage.
Déjà, il me semble, il n'y a pas si longtemps. Pas si longtemps, Sidney Crosby se faisait repêcher dans une salle de conférence d'un hôtel d'Ottawa, où je ne me souviens plus c'était où, là, mais.
2005,
oui. Hier encore, j'avais 20 ans.
Oui, c'est ça, c'est il y a 20 ans. Il y a 20 ans après Crosby, ben Caleb Desnoyers, un attaquant des Wildcats de Moncton, je pense que c'est lui qui commence cette saison-là là, avec une longueur d'avance. C'est lui dont on va parler le plus, je pense, dans la Ligue junior maritime Québec. Je l'ai eu. Il a connu une bonne saison l'an dernier. Les Wildcats seront encore dans le mix, pour utiliser l'expression. Puis cet été, je pense à la Coupe Linka Gretzky, Caleb Desnoyers a été un des leaders de cette équipe-là. A vraiment fait ses preuves. Donc, ça va être le joueur à surveiller du côté de la LHJMQ cette saison. Mais aussi, ce qui est intéressant, 3 gardiens québécois qui sont pour le moment là, à la ligne de départ, qui sont sur les listes des recruteurs. On parle de Louis-Antoine Deneau qui est à Québec, un grand bonhomme, 6 pieds, 7 pouces, je pense, à 17 ans. C'est quand même impressionnant devant le filet. Luca Beckman à Bécomo, Gabriel Daigle aussi, dont on a parlé beaucoup dans les dernières années, qui joue à Victoriaville. Donc, ça va être, tout ça va être à surveiller cette saison au chapitre des espoirs. Puis, ça va être, je pense que ça, il y a eu des. On vient de passer 2 années de vache maigre du côté de la production d'espoir dans la LHMQ. Jean-François Danfus me disait qu'au niveau talent de pointe, au niveau des potentiels choix de première ronde, deuxième ronde, il va peut-être en avoir plus cette saison. Mais au final, il disait qu'en termes de quantité, ça devrait se ressembler. Mais en termes de qualité, ben, je pense que c'est un peu plus au rendez-vous cette saison.
Ça va faire du bien, je pense. Hein?
Oui, ça va changer un peu le
discours et redonner confiance un peu à tout ce qui est le système de développement québécois, là, entre autres.
C'est cyclique, Nick, c'est cyclique.
C'est cyclique, c'est cyclique, c'est du bicyclique, là. Oui, exactement. Hey, les gars, merci d'avoir été là aujourd'hui sur le balado. Pour les auditeurs, ben, écoutez, prochain balado, on se donne une pause mercredi. Là, on vient vous en donner trois beaux balados avec celui-ci et les deux de Poolers. On prend une pause la semaine prochaine parce qu'on va se préparer pour l'aperçu de saison qui devrait être disponible le 2 octobre. Ben oui, ça s'en vient déjà. Là, le camp d'entraînement va être terminé puis on va être en train de parler de hockey de la Ligue nationale. La saison qui s'amorce le 4 du côté de... T'as checké la série globale, si je ne me trompe pas, cette année. Là, donc, les premiers matchs qui vont être à Prague. Voilà, donc ça va être disputé là, les... C'est ça. La saison commence le 4. Alors, on va avoir bien évidemment un balado. Donc, suivez-nous sur peu importe où vous nous écoutez, votre plateforme préférée. Vous allez être certain de ne pas manquer le prochain balado. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. LNH sur Facebook, LNH barre de soulignement FR sur Instagram, Threads et sur X. GF, Guillaume, merci d'avoir été là aujourd'hui.
Merci, messieurs. Boys. À bientôt.
Les chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on vous reparle très bientôt.